J'ai refusé totalement ce qui
s'est passé. Moi, j'ai essayé de vous au cas de langage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de mes précisions, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour, la semaine dernière, l'Assemblée plénière extraordinaire de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, a rendu public son message sur le processus électoral aux fidèles et à l'ensemble du peuple congolais. Ce, après avoir analysé le rapport d'observation électorale mené par l'Église catholique. Dans ce message, la CENCO mentionne les acquis du processus électoral, ses défaillances et ses recommandations au peuple congolais, aux acteurs politiques, à la CENI, au Parlement, au gouvernement FRDC, à la CONC et à la Cour suprême de justice, sans oublier aussi la communauté internationale. La CENCO rappelle aussi sa mission au sein de la communauté et condamne les dérives qui ont conduit à la violence. La CENCO estime que le processus a été entaché des graves irrégularités qui remettent en question la crédibilité des résultats publiés. Elle demande aux organisateurs d'avoir le courage et l'honnêteté de tirer les conséquences qui s'imposent en proposant la voie du dialogue. Que pensez-vous de ce message? Le professeur Jean-Pierre Bouakalala, professeur des sciences politiques à l'Université de Kinshasa, est notre invité. À la réalisation, Kiroué Lamézi et Sissine Poutou, sous la supervision de Nicole Ngaka, Ilem Lundamba est à la mise en onde et à la présentation. Marie-Chou Kalimba.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs par Internet en écrivant à ca@radiocati.net.
Bonjour, professeur.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté de venir échanger avec nos auditeurs sur cette question qui est politique. Et nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Le message de l'Assemblée plénière extraordinaire de la CENCO aux fidèles catholiques et à l'ensemble du peuple congolais, eh bien, il ressort d'abord les acquis du processus électoral, commençant par là. Vous avez nécessairement, bien sûr, lu ce message. Et dites-nous, qu'est-ce que vous retenez de ce que ce message dit concernant les acquis du processus électoral?
Ben, les acquis, c'est très évident. D'abord, les évêques félicitent le peuple congolais de s'être mobilisé massivement pour aller participer aux élections, ce qui est un élément important dans une démocratie. Il est important que le peuple participe aux élections. Les évêques saluent également l'effort fourni par le gouvernement congolais de mettre la main à la poche, de financer une grande partie.
De plus de 80%.
Voilà. Donc, les évêques félicitent cela. Et les évêques félicitent également la CENI d'avoir réussi, n'est-ce pas, à mobiliser du point de vue de la logistique le matériel à temps pour permettre aux Congolais de voter. Donc, ce sont là les éléments principaux qu'ils donnent en termes d'acquis et également, évidemment, les observateurs, les témoins qui ont participé à ce processus. Donc, ce sont là les acquis que les évêques relèvent.
Et concernant les défaillances, parce qu'ils ressortent carrément, la CENCO estime que toutes ces irrégularités entachent la crédibilité même de ce processus. Il y a eu plusieurs, ils ont soulevé plusieurs fois, ils ont lancé des messages. Il y avait par exemple ce premier message du 25 février en 2011, où il y avait un rapport, un message qui était intitulé « L'année électorale, que devons-nous faire ?» Il y a eu aussi un autre message le 3 décembre, où la CENCO a rappelé qu'elle n'avait pas pour objectif de publier les résultats. Par ailleurs, sa mission est d'observation électorale et elle a invité le peuple congolais, les acteurs politiques et la CENI à s'en tenir impérativement à la vérité des urnes. Donc il y a eu plusieurs messages jusqu'à la publication de ce dernier message de la semaine dernière, le 11 janvier dernier, où carrément elle a publié tout ce rapport sur ces élections. Et concernant ces défaillances, nous pouvons remarquer qu'encore une fois, elle demande carrément aux organisateurs d'avoir le courage et l'honnêteté de tirer les conséquences qui s'imposent, parce qu'elle estime que ce serait assez difficile et risqué de gouverner par un pays par défi. Qu'en pensez-vous?
Effectivement, madame, vous savez que le pouvoir politique, c'est un pouvoir dans une société démocratique que l'on détient par les urnes. Donc ce sont les peuples qui donnent le pouvoir dans une société démocratique. Alors il est difficile justement de gouverner une société par défi. Je crois que c'est une conséquence logique du fait que le pouvoir politique se caractérise notamment par le fait que, contrairement aux autres formes de pouvoir, celui-là, il est exercé par le, disons, grâce au peuple qui vous le confie. Tandis que les gens qui détiennent les autres pouvoirs ne dépendent pas de leur sujet pour détenir le pouvoir. Ça, c'est un élément important qu'il faut bien souligner, hein, parce que souvent on parle de pouvoir politique, mais dans la société, il n'y a pas que le pouvoir politique. Il y a le pouvoir politique qui est le plus important, qui est le plus globalisant, qui peut actionner les moyens de l'État, notamment les moyens de force, ainsi de suite, le monopole de la violence légitime. Mais c'est aussi un pouvoir qui est caractérisé par le fait qu'il est beaucoup turbulent, avec beaucoup de conflits, mais que c'est un pouvoir qu'on ne peut exercer qu'avec la légitimité du peuple. Ça veut dire que c'est le peuple dans une société démocratique qui élit ses dirigeants.
Mais avec ce qui vient de se passer, nous avons un nouveau président qui a été il a prêté serment dernièrement, donc la Cour suprême de justice a carrément validé les résultats. Donc à ce moment-là, au regard du message de la CENCO, on a l'impression que c'est un peu contradictoire.
Non, ça dit que ici c'est différent. En fait, nous avons un processus électoral qui a été organisé par la CENI, qui a mission d'organiser les élections dans notre pays, et la CENI a proclamé les résultats. Ces résultats ont été avalisés par la Cour suprême de justice, parce que la CENI proclame les résultats provisoires et la Cour suprême de justice proclame les résultats définitifs. Et donc, ce processus, du point de vue de nos textes légaux, ce processus est terminé. Maintenant, le problème que la CENCO pose, c'est un autre problème. Ça veut dire que la CENCO constate que ce processus a été entaché d'irrégularité et donc estime que, du point de vue de la situation de crise que nous traversons, il faut un correctif. Donc, je crois que c'est deux points de vue différents. Donc, c'est deux discours différents. Le premier, nous sommes dans un processus légal, constitutionnel, qui est arrivé à terme. Parce qu'à terme, il y a le président qui a été élu, qui a prêté serment, selon le résultat proclamé par la Cour suprême de justice. Mais maintenant, les évêques, qui se réunissent après coup, n'est-ce pas, reviennent sur ce processus, en constatant ou en relevant que ce processus a été entaché d'irrégularité, et donc ils invitent ceux qui ont organisé ce processus à revoir ces erreurs-là, au lieu de laisser les erreurs survivre, en fait. Hein.
Ils proposent, en fait, plutôt la CENCO, elle propose le dialogue, parce que déjà le recours juridique est arrivé au bout, et elle propose le dialogue.
Voilà, le dialogue, c'est un peu comme ce qui a été dit ici dans une des émissions, toujours dans Parole des auditeurs, pour dire, étant donné que le processus électoral est arrivé à terme et que sur le plan juridique, il n'y a plus grand-chose à faire, sur le plan politique, les acteurs politiques ont intérêt à ouvrir le dialogue entre eux pour pouvoir se parler et donner au peuple congolais qui est un peu dans l'ensemble dessus de la manière dont les acteurs politiques se comportent finalement. Ça veut dire que les acteurs politiques maintenant, on le voit, ils sont en conflit ouvert entre eux, alors qu'ils disent toujours que c'est la politique, ils ne sont pas ennemis, ils sont adversaires. Et donc il est important que les acteurs politiques puissent quand même envoyer les signaux importants, les signaux clairs aux citoyens congolais qu'ils sont capables de gérer ce pays de manière responsable. Je crois que c'est important que les Congolais, surtout les leaders congolais, les leaders politiques, puissent dialoguer entre eux, c'est très important.
Et la dernière partie, ce sont ces recommandations au peuple congolais, aux acteurs politiques, à la CENI, au Parlement, au gouvernement, aux forces de l'ordre, à la communauté internationale. Bien sûr, nous allons d'abord écouter nos auditeurs, savoir ce qu'eux ils pensent de ce message de l'Assemblée plénière extraordinaire de la CENCO aux fidèles catholiques et à l'ensemble du peuple congolais. Et si vous voulez participer à cette émission, je rappelle les contacts. Le 081 890 6315, le 081 890 6315. Vous pouvez également nous écrire à l'adresse internet pa@radioocapi.net. Il y a aussi une troisième possibilité. Vous pouvez aller poster votre réaction sur une page Facebook que nous venons d'ouvrir. La page, ça s'appelle Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Moussa.
Bonjour Nathalie.
Nous vous écoutons. Que pensez-vous de ce message?
En tout cas, Nathalie, je remercie la radio Okapi pour cette opportunité et je salue aussi tous les auditeurs et auditeurs de la radio Okapi à travers la République et aussi partout dans le monde. Mon opinion sur cette déclaration de la CENCO est très positive, car la CENCO n'a fait que traduire la volonté et aussi la vie de la majorité des Congolais en rapport avec les critères couplés du 22 novembre 2011, c'est-à-dire la présidentielle et législative. Mais tout le monde est d'accord que la CENCO vient de jeter par la fenêtre des centaines de millions de dollars d'argent et nous contribuons aux Congolais, car le bureau de la CENCO, pour moi, il doit immédiatement être dissous.
Donc, donc vous déplorez l'organisation, vous estimez que c'est une organisation bâclée, vous dites même que ce sont des centaines de millions de dollars qui ont été jetés par la fenêtre, et vous appuyez ce message de la CENCO. Merci, merci beaucoup Moussa de votre participation à cette émission. Richard, vous êtes ici à Kenanga, bonjour.
Bonjour Marie-Chantal Mouma.
Oui Richard, nous vous écoutons.
Oui, ce message du cardinal Monsengo est clair et logique. Cependant, lorsque nous comparons les plans d'action de ces deux figures congolais, notamment président du PPRD et celui de l'UDPS, lors de leur campagne, nous avons compris théoriquement qu'ils avaient tous la volonté de mettre fin à cette crise politique et accélérer le processus du développement de notre pays. Conclusion. Les élections, quelles que soient non crédibles ou crédibles à l'heure actuelle, je propose surtout au cardinal Monsengo, en sa qualité de l'autorité ecclésiastique, d'être facilitateur, tout en convoquant une réunion extraordinaire à laquelle ces épiscopistes seront considérés comme des chrétiens en dehors de leur statut politique, afin de mettre fin à cette crise politique et éviter le cercle des vies humaines. C'est ça la proposition.
Merci. Merci Richard de Kalanga. Vous estimez que cette crise politique ne peut pas permettre de que la RDC continue sa voie sur le développement et vous souhaitez que Monseigneur Monsengo soit le facilitateur et qu'il puisse permettre ce dialogue entre les deux personnes qui actuellement sont en chien de faïence, on peut dire ça comme ça. Merci beaucoup Richard. Nous prenons Simon de Kinshasa, bonjour.
Oui. Bonjour, madame.
Oui, Simon, nous vous écoutons.
Oui, pour moi, je soutiens à 100% la déclaration de CENCO. Pourquoi? Nous avons même un assemblée, il était le nom de cette officier de tutelle, le banon qui est de la majorité présidentielle, qui a dit qu'on lui avait demandé une somme de 5 000 $, il avait refusé. Et tout le monde sait que c'est la mission catholique qui a déployé au moins 30 000 observateurs. Dans toute la République. Ni l'Union nationale, ni même les autres partis n'ont pas pu faire ça. Alors, la déclaration de CENCO est claire et nette, et qu'on la respecte.
Merci, Simon de Kinshasa. Nous prenons Franck Scovavienne. Bonjour.
Bonjour, madame Marie-Chantal. Bonjour, monsieur Prof.
Oui, et de l'Autriche, nous vous écoutons. De l'Autriche, plutôt.
Je crois que la déclaration des évêques ne doit pas se prendre de manière détachée. Pour chaque Congolais qui fait un peu le rôle de l'Église au Congo, pour les Congolais aussi qui savent le poids social de l'Église, nous devrons quelque part aussi se mettre d'accord par rapport à ce que les évêques sont en train de dénoncer. Mais bien avant ça, quand on doit d'abord voir la manière dont les élections se sont préparées, s'il faut tenir compte de la qualité du fichier électoral, de la qualité des listes définitives, de la cartographie des bureaux. Donc, nous savons tous qu'il y a eu beaucoup de problèmes techniques, qu'il y a eu vraiment un certain nombre de dysfonctionnements. Alors, un autre aspect, si nous devons aussi admettre que l'Église catholique a aligné au moins 30 000 témoins dans les bureaux de vote, ce qui signifie que sur les 63 000 bureaux de vote, l'Église catholique était présente dans un bureau sur deux. Donc, ça signifie que la déclaration des évêques ne part pas du néant, donc ça part à base de témoignages récoltés par-ci par-là, compte tenu de tout ce que leurs témoins leur ont rapporté. Je crois que ça ne sert pas d'argumenter avec beaucoup de passion. Il faut d'abord dépasser l'argumentation parce que les évêques ne sont pas allés inventer quelque chose. Tout n'est pas connu par les Congolais. Les évêques ne font que dire ce qui a déjà été dit par beaucoup d'ONG. Donc nous devons quand même avoir la sincérité et le courage de reconnaître qu'il y a eu des proportions d'irrégularité qui doivent nous donner à penser. Alors, si déjà au niveau de 50% de leurs témoins, ils se rendent compte qu'il n'y a pas eu beaucoup de transparence, qu'il y a eu des proportions d'irrégularité assez élevées, et qu'on doit se taire parce que l'Église est aussi là en train d'accompagner le peuple qui souffre tous les jours.
Merci beaucoup. Nous sommes
toujours à côté de ce peuple.
Merci beaucoup.
Il ne faut pas à diaboliser, mais il faut quand même analyser le résultat en face avec un peu de sérénité et d'objectivité.
Merci Franck. Vous êtes à Vienne. Pour vous, vous estimez que les acteurs politiques devraient prendre en considération ce message et pouvoir, à partir de ce message, tirer les conséquences. Merci encore une fois. Nous allons lire ce message d'Isaac qui se trouve à Boutembo. La CENCO voit dans quelle direction veut aller ce pays, raison pour laquelle elle se bat pour chercher la vérité dans la compilation des résultats de l'élection présidentielle du 28 novembre 2011, compte tenu de beaucoup d'irrégularités. C'est une chose agréable à encourager et je souhaite que les autres entités religieuses soutiennent la CENCO dans le cadre de la recherche de la vérité. Lucas de Lubumbashi, nous appuyons la position de l'Église catholique face aux résultats des élections législatives et présidentielles. C'est inimaginable qu'on critique ces résultats au moment où c'est elle ayant déployé, ou l'Église catholique a déployé un grand nombre d'observateurs. Les autres résultats sont acceptés, que dire alors des élections locales et à ce moment-là, comment quelle sera la réaction? Depuis l'école coloniale jusqu'à ce jour, l'Église est toujours proche, pas seulement de la population, mais aussi de l'État, et surtout, elle fait un pont entre ces deux entités. Je pense qu'il veut parler là des responsables, donc il estime que l'Église fait un pont entre la population et les autorités. Il y a Jean Chrysostome qui nous écrit ceci. Les évêques congolais n'ont pas fait leur déclaration sur un coup de tête. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe actuellement au sein de la MP pour comprendre s'ils ont dit la vérité. En son temps et dans leurs appels au redressement de la nation, les évêques congolais, Zaïrois alors, avaient dit que la crise congolaise était essentiellement morale et quand il y a absence d'éthique et de morale en politique, n'importe quoi peut arriver. La fraude et la tricherie ont bel et bien été planifiées dès l'exigence et l'obtention de la modification de la Constitution, avec déjà en ce moment-là la corruption des députés nationaux, y compris ceux de l'opposition. La médiocrité dans laquelle croupit la classe politique congolaise rend celle-ci incapable de comprendre et de se lever au niveau de la finesse intellectuelle des évêques congolais. Il faut des négociations politiques pour pouvoir aboutir à une feuille de route stricte et précise afin de sortir de la crise actuelle. Le recours au stalinisme et ni encore moins au poutisme n'est nullement une solution durable. Voilà ce que pense Jean Chrysostome. Nous allons demander à Jean Kinshasa et à Lidor de Kananga de patienter le temps que notre invité puisse réagir face à tous ces avis des auditeurs.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiotapis.net.
On veut sans vous voir cette première série d'auditeurs, vraiment la majorité. Ils ont soutenu ce message des évêques, ils ont aussi prôné le dialogue. Et là, nous revient une question, le problème, la situation qu'a essayé de peindre Franck de Vienne, où il a montré, il essaie de démontrer un peu le rôle de l'Église dans la communauté. Face à ces déclarations, face à ce qui se passe en RDC depuis le temps du Zaïre, à votre avis, quel est le pouvoir en fait de l'Église dans une communauté?
Mais vous voyez, c'est peu par là que nous avons commencé. Les évêques ont parlé. Je vous ai expliqué que du point de vue de ce processus, le président de la République a respecté serment, mais les évêques se situent sur le plan moral. C'est-à-dire qu'ils du point de vue de leur conscience, du point de vue de leur mission, ils trouvent qu'ils doivent dire ce que tout le monde pense tout bas. Et donc, eux, ils expriment le point de vue de ces peuples qu'ils côtoient tous les jours. Vous savez que ici c'est l'assemblée plénière qui s'est réunie dans une session extraordinaire. Ça veut dire que c'est l'ensemble de tous les évêques du Congo qui se sont réunis. C'est différent du comité permanent où sont représentés les archevêques et le président des commissions. Mais ici, ce sont tous les évêques du Congo qui viennent, dont la majorité vient de l'intérieur. Donc, qui viennent de tous les diocèses de ce pays, qui se sont réunis, qui ont examiné et qui font une déclaration. Je pense que la série des auditeurs qui viennent de passer, n'est-ce pas, montre que c'est un problème connu de tout le monde. C'est-à-dire ce que les évêques disent là, il n'y a rien de nouveau. C'est tout ce que tout le monde dit tous les jours ici, dans les rues, dans son salon, hein, les gens échangent là-dessus. Seulement les évêques, comme autorité morale, n'est-ce pas, le chef spirituel de l'Église catholique, qui a un bon nombre, n'est-ce pas, de chrétiens dans ce pays, prennent le courage de se lever et de faire leur déclaration. Maintenant, la déclaration peut ne pas vous plaire. C'est normal que cette déclaration ne vous plaise pas. Mais on ne peut pas dire que les évêques mentent, par exemple.
Hein? Il y a aussi cette question, alors quelle est l'influence
de
ce message sur la politique?
Voilà. L'influence, c'est une influence qui dépend de ceux qui reçoivent le message. Parce que les évêques font leur travail. Comme ils le font, l'Église est là, ils prêchent la vérité, ils annoncent l'Évangile, et les gens écoutent cette parole. Il y en a qui l'exécutent, qui le mettent en pratique, il y en a qui ne la mettent pas en pratique. Donc les évêques sont dans leur mission de proclamer la parole de Dieu, de proclamer l'Évangile. Et notamment ces vertus-là, de justice, n'est-ce pas, de vérité, comme ils le disent eux-mêmes. Et donc, ils se situent sur le plan moral, n'est-ce pas? Ils se situent sur le plan moral, ils ne sont pas sur le plan juridique, ils ne sont pas sur le plan strictement politique. Il parle comme autorité morale. Et je crois que dans notre société, le chef spirituel sont reconnus, n'est-ce pas, comme autorité morale, comme des gens qui peuvent nous interpeller lorsqu'ils nous voient aller à la dérive. Parce que parmi ces acteurs politiques, n'est-ce pas, qui sont impliqués directement dans la crise que nous connaissons, aussi bien au niveau de l'élection présidentielle que les élections législatives, parce que ce sont ces gens-là qui sont les premiers acteurs concernés au premier plan. Ces acteurs sont, il y a parmi ces acteurs beaucoup de catholiques.
Oui, et d'ailleurs plus de 60%, même 70% de la population congolaise sont des chrétiens catholiques selon les dernières statistiques.
Voilà, donc ils parlent à ces gens-là. Donc ils les interpellent comme leur père spirituel pour dire que voilà, il nous constate que la crise est assez grave, hein, la crise politique, et il se lève pour interpeller ces gens-là, ils appellent à leur conscience, ils appellent à leur foi pour qu'ils sachent que le Congo, c'est un pays qui appartient à tout le monde et que les acteurs politiques ne puissent pas priver les Congolais de leur bonheur. Parce que, vous savez, le système politique est là pour le bien-être de la population. Et donc, les évêques invitent les acteurs politiques à jouer ces rôles-là, à prendre leurs responsabilités. Et donc, tous les intervenants qui sont passés avant, n'est-ce pas, tout à l'heure, c'est ce qu'ils disent.
Donc, à votre avis, il revient maintenant à ces acteurs politiques de pouvoir écouter ou pas du tout ce message de l'Église.
Exact, parce que les évêques n'ont pas d'armes. Les évêques n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de prison, n'est-ce pas? Les évêques, tout ce qu'ils ont, c'est leur bouche pour parler, n'est-ce pas? Ils parlent, ils prêchent, n'est-ce pas? Ils annoncent la parole de Dieu et ils trouvent que dans ce contexte ici, leur mission à eux, n'est-ce pas, comme évêques, c'est d'interpeller la conscience de tous les Congolais. Parce qu'ils s'adressent aux chrétiens catholiques, mais ils s'adressent aussi au peuple congolais, donc à l'ensemble.
Et depuis, par exemple, cette, la prestation de serment du président Kabila, jusqu'à ce jour, il y a quand même une période qui s'est écoulée, et cette crise, est-ce que vous pensez que cela a un certain frein pour le développement du pays?
Bon, c'est clair, notre pays n'a pas besoin de vivre continuellement dans la crise politique. Vous savez que ces élections, telles qu'elles se sont déroulées, n'est-ce pas, ont plongé le pays dans la crise, aussi bien pendant la campagne qu'après les résultats. Donc, le Congolais vivent une grande crise politique. Nous avons connu beaucoup de violences aussi dans ce pays. Nous sommes restés plusieurs jours à la maison, campés, terrés là-bas. Nous ne pouvions pas sortir. Nous sommes ici à Kinshasa. Nous avons vécu tout cela. C'est clair que ce sont des choses qui ont un impact malheureux sur le développement.
Mais est-ce qu'on peut le sentir spécifiquement parce qu'apparemment, on voit les gens circuler, les habitudes ont repris, les transports, on voit les gens, c'est vrai qu'il y a des groupes dans la rue en train de se poser des questions sur l'avenir du pays, mais est-ce qu'on peut quantitativement démontrer que le fait qu'il y ait cette crise, cela a vraiment un impact visible sur le fonctionnement du pays?
C'est très clair, madame. C'est-à-dire, surtout du point de vue économique. Nous avons fait toute une semaine sans aller travailler. On était tous dans nos maisons. Une semaine où on ne produit pas pour un pays comme le nôtre, chez les producteurs, chez les hommes d'affaires, c'est une catastrophe.
Mais un pays qui vit de l'informel en grande partie.
Oui, même c'est de l'informel aussi. Oui, madame, même c'est de l'informel lorsqu'il reste chez eux à la maison, qu'il ne travaille pas. Souvent, c'est vraiment au prix de beaucoup de souffrances parce que la majorité des Quinois se réveillent le matin pour aller se débrouiller. Quand ils rentrent chez eux, ils ramènent quelque chose à manger à la maison. Et donc, lorsqu'ils ne peuvent pas se débrouiller, lorsqu'ils ne peuvent pas faire de telles activités, et nous comprenons qu'ils auront la difficulté de payer les soins médicaux de leurs enfants lorsqu'ils sont malades, ils auront la difficulté de payer la scolarité, de payer les loyers. Et donc, tout ça, ce sont des choses qui sont vécues personnellement par chacun, sans que, quelque part, il y ait quelqu'un qui prenne en charge tous ces stress des citoyens congolais. D'autant plus qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'informel. C'est-à-dire, s'ils ne sortent pas se débrouiller, ils n'ont pas de salaire. C'est-à-dire que ceux qui ont un salaire, qui restent chez eux ou pas, ils auront quand même leur salaire. Mais ceux qui ont un salaire dans notre ville ici, je crois qu'ils sont une minorité par rapport à ceux qui vivent au jour le jour.
Sur l'ensemble du pays.
Et donc, voilà, sur l'ensemble du pays, nous pouvons dire que la crise politique a des conséquences malheureuses du point de vue du développement. Ça, surtout des conséquences malheureuses du point de vue des investisseurs. Parce que les investisseurs étrangers, par exemple, hésitent directement dès que dans un pays, il y a instabilité politique, il y a des crises politiques, et qu'ils ne sont pas si sûrs que leurs affaires vont marcher bien. Non. Alors, vous voyez, ils commencent à hésiter, et dès qu'il y a hésitation, voilà, vous avez vu même des perturbations du point de vue de notre monnaie. Tout cela, je crois que ce sont des signaux qui montraient que la situation n'était pas bonne. Et donc, il est important que les acteurs politiques, n'est-ce pas, prennent à cœur, n'est-ce pas, la vie de notre pays et qu'ils se mettent ensemble, qu'il trouve des solutions aux problèmes qui se posent au lieu de laisser la situation pourrir.
Mmh. Nous allons poursuivre cette émission. Jean, Aïdor, Elvis, dans quelques instants, vous aurez la parole.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapitale.
Bonjour Jean.
Bonjour Marie-Chantal, je salue le professeur.
Nous vous écoutons Jean, que pensez-vous de ce message?
Ok, avant de donner ce que je pense de ce message, je voulais d'abord poser au professeur de puisse nous expliquer à quoi notre pays est-elle appelée République démocratique du Congo. C'est la démocratie dans notre pays si on n'arrive pas à respecter la volonté du peuple. Ce que la CENCO a donné comme message ne venait qu'appuyer ce que toute la population congolaise en majorité décrit. Alors, le rôle de la CENI, c'était de nous présenter des élections crédibles. Mais malheureusement, c'est émaillé des irrégularités, on en peut dire, c'est tricherie. Pour parler de la tricherie au lieu des irrégularités, ce sont des tricheries. Alors, si la CENI trouve qu'il n'y a rien, mais depuis qu'on a commencé à donner ces différents messages, pourquoi elle ne réagit pas? Pour une seule fois, que le peuple ou que les autorités congolaises apprennent à respecter le peuple congolais.
Seulement
parce que à 2016, puisque 5 ans, c'est d'ici là, ça a déjà commencé. À 2016, est-ce que nous, peuple, aurons encore le courage d'aller voter les gens qui vont nous représenter sans nous?
Merci beaucoup, Jean. Merci, Jean. Je rappelle que vous êtes ici à Kinshasa. Donc, on regarde tout ce qui se passe actuellement, comment les élections ont été organisées. Vous posez des questions sur le taux de participation pour les prochaines élections. Alidor de Kananga, bonjour.
Bonjour, Marie-Chantal Lumba. C'est Alidor, mon fils qui est à Kananga.
Nous vous écoutons, Alidor.
C'est Marie-Chantal Lumba. Je remercie d'abord votre invité. Et déjà, je remercie à Nadek. On a donné tout ce qui était passé comme problème de l'État ici au Congo. Mais ce que je veux savoir, c'est ça. Tout le monde parle que ça a été mal fait. Tout le monde me donne le GDS.
Oui, s'il vous plaît, Alidor, est-ce que vous pouvez un tout petit peu changer de position, de place un tout petit peu, parce qu'on ne vous entend pas très bien. Le temps d'écouter d'abord Elvis de Kinshasa. Bonjour, Elvis. Elvis? Avec Elvis, c'est encore... C'est dangereux, là. On n'arrive pas à suivre correctement Elvis. Elvis, éteignez votre poste récepteur qui est à côté de vous. Alidor, oui, Elvis, attendez quelques minutes. Éteignez le poste récepteur qui est à côté de vous. Nous prenons d'abord Alidor. J'espère que cette fois-là, ça s'est amélioré, hein, la liaison téléphonique. Alidor, vous disiez... Oui, allez-y, Alidor.
Ça va?
Oui, ça va mieux. Allez-y.
Oui, Marie-Chantal Lumba, merci encore pour ça. Ce que nous demandons, c'est ça, madame. Les dernières fois qu'on parlait, peut-être des élections étaient mal faites. On a demandé de réunir
En tout cas, Lidor, ça ne va toujours pas bien, mais en vous écoutant, en grande partie, vous souhaitez que les acteurs politiques puissent prendre en considération ce message de la CENCO. J'espère que cette fois-là, vous avez éteint votre poste récepteur. Elvis, vous êtes avec nous?
Oui.
Oui, allez-y, nous vous écoutons. Elvis?
Oui.
Oui, que pensez-vous de ce message, Elvis?
Oui, la première des choses, merci beaucoup d'ailleurs d'abord pour avoir donné l'occasion de m'exprimer. Mm-hmm. La première des choses, c'est... Je dois dire que ce que nous avons capitalisé, ce que nous avons conduit, c'est que le peuple congolais est devenu quand même un peu plus consciencieux en allant massivement voter. Mais malheureusement, cette mobilisation risque de ne pas être capitalisée pour l'avenir si jamais la situation reste dans l'état actuel, dans son état actuel. Pourquoi? Parce que les gens se sont mobilisés en se disant, cette fois-là, nous voulons des institutions démocratiquement élues qui sont en place par la volonté du peuple. Mais si, dans ce que nous voyons, c'est plutôt la volonté d'un groupe d'individus qui veulent imposer leur point de vue à tout un peuple, ça risque de décourager la population. Tout à l'heure, j'ai suivi, on a posé la question, est-ce que ça a changé dans la vie des Congolais, ainsi de suite. Mais je vous pose à vous la question, s'il n'y avait pas la peur de la répression, quelle serait la vie, la réaction de la population?
Quelle question voilà, que vous posez.
De vue là-dessus.
Merci beaucoup, Elvis.
Ce que vous avez compris, c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Et nous, le peuple, et le gouvernement, mais je vais quand même évoquer les articles de la Constitution qui demandent au peuple le pouvoir de ne pas accepter des gens qui veulent s'approprier le pouvoir par la force.
Et la liberté d'expression, la liberté d'association. Merci beaucoup, Elvis. Vous étiez à Kinshasa, on a senti que vous étiez dans un véhicule, c'est quand là les aléas du direct. Merci d'avoir participé. Pour vous, en général, vous souhaitez que les élections qui se sont déroulées puissent permettre que ce soit une expérience pour améliorer les prochaines élections. Et vous êtes revenu sur cette crise, hein. Comment est-ce que chaque Congolais est en train de la vivre. Nous avons un message de Pépé Lusungi, il se trouve à Kisangani, il nous écrit ceci. La situation des élections du 28 novembre en RDC, même un enfant de 10 ans vous dira que ça n'a pas marché. Comment voulez-vous que là où presque tout le monde voit noir, mais les politiciens, les responsables des autres églises, pour leurs intérêts, voudraient nous dire que c'est blanc. Je pense que l'Église catholique a montré à la face du monde qu'ils sont quelle église est une vraie église au milieu du village. Albert Kazadi de Likassi, le message de la CENCO peut se résumer comme une véritable et vigoureuse dénonciation d'un processus électoral caractérisé par l'opacité, la tricherie, le mensonge, la terreur et la militarisation d'un processus qui était censé être transparent, crédible, citoyen, paisible, car la dénonciation par le cardinal des résultats de la présidentielle en chute libre pour l'un des candidats à la suite de la quatrième et de la cinquième publication des résultats provisoires n'a pas été à ce jour ni corrigé par la CENI, ni encore moins rectifié par la Cour suprême de justice. Andik Kambale, qui se trouve à Bounia, je suis d'accord avec les évêques quant à ce qui est des irrégularités ayant caché sur le processus électoral. Toutefois, cette réaction de la CENCO s'est vraiment fait attendre et paraît comme une intervention du médecin après la mort. Pour tout dire, le pouvoir actuel est hermétique et cette déclaration de la CENCO n'aura pas d'effet sur le pouvoir actuel. Donc, il estime que c'est un coup d'épée dans l'eau. Et Georges Bassolégué de Béni, dans le Nord Kivu, je ne pense pas que ce soit le moment de déclarer la dernière position de ces leaders religieux catholiques, car le temps était suffisant pour cela, mais hélas, la Cour suprême a tranché. Dans un pays responsable, on ne devrait plus avoir des avis contraires. C'est le cas du territoire de Béni au Nord Kivu, pour lequel la CENI n'a fait que n'a pas fait le travail demandé. Un général aux urnes pour des faits politiciens, là je ne comprends pas très bien ce que Georges veut nous dire. Le processus a été entaché des graves irrégularités qui remettent en question la crédibilité des résultats publiés. Gabriel, vous êtes à Béni, bonjour.
Bonjour, Marie-Chantal.
Gabriel, bonjour, vous écoutons.
Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Je pense que ce que les évêques ont dit, c'est ce que nous sommes en train de parler, que ce soit à l'est, à l'ouest, même au centre du pays, mais au capital. Alors, c'est un problème de la volonté. Il y a un groupe de gens de la majorité qui ne veulent pas parce qu'ils ont une série d'intérêts. C'est un moment ici, un pays sans budget national, un pays où la population souffre, mais ils continuent à persister pour qu'on puisse trouver cette solution au problème qui se pose. Madame, je pense, on a beaucoup parlé, je pense qu'aujourd'hui nous devons passer en acte. Parce que les pays, c'est pour tout le monde. Ce que les évêques ont dit, ils ont totalement raison. C'est ce que nous tous nous sommes en train de dire. Les élections, il y a eu la tricherie. Le résultat qui était affiché dans des bureaux de vote, le matin et mardi là, ce ne sont pas les résultats que Mulunda a publiés.
S'il vous plaît, Gabriel, par rapport à cela, si je me souviens bien, il y a le vice-président de la CENI qui avait demandé à toutes les personnes qui avaient des preuves matérielles que les résultats qui ont été publiés sont différents des résultats affichés, de pouvoir apporter les preuves de cela. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui a été fait? Parce qu'en grande partie, selon le vice-président de la CENI, il n'y a pas eu autant de personnes qui apportaient des preuves pour justifier cela.
Madame, vous-même, vous avez publié sur la radio Kaki, il y avait un député qui a apporté des preuves. Ce sont les membres, les militaires des GSSP qui l'ont arrêté. Aujourd'hui, si tu veux faire ça, c'est la police qui va t'arrêter. Moi, je pense aujourd'hui, ce que nous devons faire, nous devons suivre les schémas de la Christine Lagarde, de la République qui a proposé une transition. Nous devons entrer à une transition pour qu'on puisse arriver à des élections crédibles qui vont apporter des dirigeants crédibles où il y aura la population aura leur confiance et sûreté. Je pense que ce n'est pas le problème de cacher. Non, nous devons entrer à une transition.
Merci Gabriel pour vous. Nous devons revenir.
Nous devons avoir des dirigeants crédibles pour diriger ce pays. On ne peut pas laisser comme ça.
Merci Gabriel. Revenir à une transition, c'est sur ces mots que nous vous disons merci. Restez branchés sur Radio Kaki. Nous allons en parler plus avec notre invité. Maître Laurent, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour Marie-Chantal.
Nous vous écoutons.
Oui, merci. Moi, je pense que je donne totalement raison d'abord à la CENCO ou aux évêques, parce que dès qu'il y a seulement une différence d'une voix qui n'est pas la vraie, là, il n'y a ni la justice ni la vérité. Même avec une seule voix, ça fait déjà démontrer qu'il n'y a pas la justice et la vérité quand on publie avec différence d'une seule voix. Et là, nous donnons aux évêques raison. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas une opposition réelle au Congo. Parce que l'opposition ne s'était pas arrangée réellement pour arriver à finir, et même à la dernière minute, pour qu'ils aient des preuves réelles à pouvoir contester vigoureusement devant la justice. Et nous nous posons la question, aujourd'hui, ce sont les évêques qui plaident pour la population. Mais l'opposition, elle n'est pas pour la population. Parce que l'opposition n'a rien fait pour crédibiliser aussi les élections. Donc, même des preuves qu'on demande à l'opposition, l'opposition ne parvient pas à démontrer à la face du monde, même à l'extérieur, aller même avec des preuves à l'extérieur pour dire peut-être au Congo on peut encore nous matraquer, mais nous quittons avec nos preuves, nous partons avec ça à l'extérieur pour montrer à la face du monde. Il n'y en a pas. Hein? Donc, nous comprenons que même l'opposition, ce n'est pas une vraie opposition quant à mon humble avis, parce que ce n'est pas une opposition qui s'était organisée quant à l'opposition. Imaginez-vous par exemple, un candidat de l'opposition qui ne parvient pas à faire même désister un des candidats. Est-ce que c'est une vraie opposition? Pas du tout.
Donc, à votre avis, il n'y a pas d'alternative. Il faudrait que l'opposition puisse se réorganiser.
Oui, mais c'est une opposition totalement désorganisée. Et c'est là où nous voyons, est-ce que c'est l'incompétence ou c'est tout simplement, ils ont été influencés pour faire ce désordre-là. Et finalement, nous ne voyons pas, donc, telle la population peut chercher une nouvelle opposition, hein, pour que ça puisse être une vraie opposition qui cherche le bien-être de la population, mais pas cette opposition qui pour nous voyons, qui est vieillie sans stratégie appropriée, hein, pour faire triompher la vérité.
Merci.
Et donner la valeur de la population.
Merci Laurent, Patti de Mahagui, bonjour.
Oui, bonjour, moi, c'est toi, Patti, vous avez des problèmes, une marge de problèmes pour la salle.
Nous vous écoutons, Patti.
Bon, chez nous, l'organisation de la série est très mal passée. Bon, c'est organisé.
En tout cas, Patti, on n'arrive pas à vous suivre. Essayez un peu de changer de position, de vous déplacer un tout petit peu. Le temps que je puisse lire ces deux messages de Michel Moussafiri, qui nous écrit ceci, la CENCO veut nous faire sortir dans une crise très grave, une crise grave que devait subir la population congolaise. Il nous faut le dialogue, car sans cela, nous risquons de tomber dans une situation chaotique. Et Kabeya Nkachama qui se trouve en France, le problème de la RDC, c'est sa classe politique qui prétend œuvrer pour le peuple congolais, alors qu'elle est plus préoccupée par le positionnement des uns et des autres. L'entourage du président Kabila doit savoir que vouloir gouverner par défi risque d'embraser le pays. Il y a eu une volonté de tricher dès le départ de ce processus. La majorité et l'opposition parlementaire ne sont pas indemnes de cette débâcle électorale. Gouverner, c'est prévoir. Nous avions à l'époque proposé un contre-calendrier pour éviter ce qui est arrivé et nous n'avons pas été écoutés. Maintenant que tout le monde est conscient qu'il y a blocage, retrouvons-nous pour épargner à notre peuple une fois de plus des misères. Patti, j'espère que cette fois-là, la liaison téléphonique s'est améliorée. Vous nous écoutez? Oui, Patti, vous pouvez poursuivre. Peut-être qu'on pourrait mieux vous suivre.
J'ai déjà janvier, non.
En tout cas, jusque-là, ça ne s'est pas amélioré du tout. Nous nous excusons, nous avons vraiment voulu écouter ce que vous voulez nous dire. Nous prenons Tridon, qui se trouve à Kananga, il est de la société civile du Café Occidental. Bonjour Tridon.
Bonjour madame.
Oui, nous vous écoutons.
Oui, c'est par rapport à la déclaration des évêques.
Mm-hmm.
Oui, là j'aimerais tout de suite saluer ici l'esprit et la lettre de cette déclaration des évêques. Et moi, je me dis que si jamais les dirigeants de notre pays aiment le pays, je leur recommande vivement de prendre cette lettre et d'en faire leur tableau de bord pour le reste de leur mandature. Et j'en ai pour cause, j'en ai pour preuve un certain nombre de recommandations très pertinentes dans cette lettre, même si, au demeurant, j'observe que dans cette lettre, les évêques n'ont peut-être pas relevé le fait que les résultats auxquels nous sommes parvenus à ce jour résultent d'une campagne électorale basée malheureusement sur des attaques individuelles, sur la diabolisation des adversaires, sur des discours incendiaires, sur l'appel à la violence, sur l'injure facile. Ce qui est vrai, c'est que le code de bonne conduite des candidats n'a pas été respecté. Ça, c'est du point de vue de la campagne électorale. Au point qu'à ce jour, les résultats que nous déplorons ce jour ne sont que la conséquence de cette campagne électorale mal menée. Et j'en arrive maintenant à quelques points très forts que j'épingle dans la lettre. Entre autres, les évêques épinglent qu'il y a un certain nombre de droits de l'homme qui ont été violés, que nous également, défenseurs des droits de l'homme, nous avons eu à déplorer. C'est entre autres la confiscation des libertés publiques par les pouvoirs établis. On a déploré, entre autres, des enlèvements des citoyens, on a déploré des morts d'hommes, on a déploré des disparitions, des tortures, mais surtout l'esprit de terreur qui a prévalu avant, pendant et après les élections. Voyez-vous, on a vu là les déploiements des militaires. Certaines autorités ont parlé en termes d'escadron de la mort, s'il faut paraphraser une autorité qui est passée sur les médias ou quelque chose qui pour dire écoutez. Et ceux qui viennent là-bas, il faut faire attention avec vos enfants, gardez-les, c'est l'escadron de la mort. Cette forte militarisation de nos cités a dû donc faire en sorte que les populations du Café Occidental ont demeuré dans la terreur. À un moment donné, on se posait la question de savoir si nous sommes dans notre propre pays ou si nous sommes à l'étranger, dès lors que nous avions même peur de sortir sur nos rues. La culture de terreur a donc régné. Et, mais ici, j'en ai pour preuve tout ce que j'en voudrais ici en arriver aux recommandations. Je les trouve très, très pertinentes. Les recommandations, c'est entre autres la remise en cause de la PMI. Je crois que là, le temps ici de se regarder très honnêtement et très objectivement dans le miroir pour dire eux qui ont eu le temps de nous mettre, nous autres, dans cette série de côté, aujourd'hui, c'est une institution qui a été politisée à outrance et on en a les conséquences. Regardez, les conséquences sont là.
Oui, vraiment, merci beaucoup. Donc, par rapport à cela, l'une des recommandations de la CENCO à la CENI, ils ont demandé d'avoir le courage de remettre en question, de corriger impérativement les graves erreurs fustigées qui ont entamé la confiance de la population en cette institution, et ils ont carrément demandé, si c'est pas possible, de démissionner. Merci beaucoup, Tridon, de votre participation à cette émission. Donc, pour vous soutenir ce message et vous relevez qu'il y a eu d'autres irrégularités, notamment les violations des droits de l'homme qui ont été constatées. Et par rapport à ce message, vous souhaitez que les acteurs politiques puissent tenir compte de ce message de la CENI. Henriette, plutôt de la CENCO. Henriette, vous êtes en Boulimaï, bonjour.
Bonjour madame.
C'est la première dame au cours de cette émission et nous encourageons toutes les femmes qui veulent y participer de ne pas hésiter. Il y a aussi notre page Facebook que nous venons d'ouvrir aujourd'hui, où que vous soyez, si vous avez un portable avec internet, il suffit de vous connecter sur Facebook et de taper parole aux auditeurs et vous pouvez poster votre réaction. Henriette, nous vous écoutons.
Oui, les évêques n'ont fait que dire tout haut ce que l'ensemble de la population congolaise vit à Dikouba. À mon avis, je trouve que les acteurs politiques congolais doivent prendre en compte le message de la CENCO qui est celui du dialogue. Sinon, la suite du processus électoral sera boycottée par l'ensemble de la population.
C'est l'impression que vous avez, c'est votre lecture d'essai. Merci beaucoup, Henriette de Mbujima. Et nous revenons au professeur, le temps de lire d'abord Étienne Moutebou qui nous a écrit sur notre page Facebook. Les évêques font partie des personnes éveillées, avisées et mieux placées pour donner des orientations objectives pour la bonne marche de ce pays. La classe politique congolaise a donc intérêt à exploiter minutieusement les conclusions et propositions contenues dans ce message, car ils ont signalé le peuple ne doit céder ni au pessimisme ni au désespoir, et donc il n'est pas encore tard pour sauver notre jeune démocratie.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-63-15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Encore une fois, professeur, tous nos auditeurs ont soutenu ce message. Pour certains politiciens, on pourrait croire que c'était facile de dire qu'ils sont tous de l'opposition et non de la majorité. Et au regard de ce qui vient d'être dit, est-ce qu'ils ne sont pas qu'il y a peut-être un malaise social au lieu de parler de tendances politiques à ce niveau-ci?
Bon, moi je crois qu'il y a une crise des sociétés. Donc on ne peut pas réduire la crise dans laquelle nous nous trouvons maintenant comme une crise de l'opposition et des majorités. Parce que, tel que je constate, en fait, la société est en crise, nous sommes comme dans une sorte d'attentisme. Les gens attendent, ils attendent quoi, on ne sait pas. Et donc, les citoyens, les petits peuples semblent être un peu découragés, alors que nous avons participé activement à ce processus. Donc il s'agit de notre pays, donc il ne s'agit pas d'une question de détail, il s'agit d'une question qui implique les Congolais. Et donc les évêques comme acteurs aussi de la société ont joué leur rôle. Maintenant, tous les autres doivent tirer aussi les conséquences de leurs déclarations. Mmh. Au lieu de les traiter soit comme les gens de l'opposition, ainsi de suite, ils savent bien que les évêques n'ont pas de parti politique. Ils peuvent, comme citoyens, avoir une préférence pour l'un ou l'autre, mais dans ces déclarations, ils parlent comme responsables de l'Église catholique. Et vous savez aussi que convoquer tous ces évêques à Kinshasa a coûté cher. Hein, ça a coûté de l'argent, le faire venir de leur diocèse, ça veut dire qu'ils tiennent à cœur ce problème.
Et ils ont même souligné dans ce message, ils ont dit que nous ne plaidons pas non plus pour un parti politique.
Voilà, il y a des gens qui ne connaissent pas le fonctionnement de l'Église catholique, parfois qui ont l'impression que c'est facile de réunir les évêques de tous les diocèses et puis le faire parler d'une manière irresponsable. Donc les évêques ont parlé en toute responsabilité. Donc je crois que ça doit être pris au sérieux et que les acteurs politiques, parce que c'est comme les évêques le disent dans leur message, qu'ils doivent bien prendre en compte les recommandations et toute cette exhortation au lieu de s'en moquer. Parce qu'à courte vue, on peut banaliser, n'est-ce pas? Mais, comme tous les intervenants le disent, nous sommes en crise. Nous sommes en crise, les gens ont des choses à dire, ils ont des choses à penser, ils ne l'expriment pas. Alors les évêques expriment au nom de tous les gens qui les côtoient tous les jours, qu'ils entendent. Il faut voir qu'il s'agit bien d'une catégorie de citoyens privilégiés pour entendre ce que les gens pensent sincèrement, surtout en tenant compte des relations qu'il y a entre le chef spirituel et le fidèle. Il s'agit d'une relation sincère où souvent ils écoutent ce que les gens pensent réellement. Tandis que les relations que ces acteurs politiques ont avec les citoyens, ce sont des relations tout à fait fausses, dans la plupart des cas, des intérêts basés sur les relations basées sur les intérêts. Les gens qui les côtoient, ils les côtoient pour qu'ils leur donnent l'argent, ils les côtoient pour avoir le pouvoir, ils les côtoient pour des choses matérielles. Souvent, ils n'ont que faire de ces acteurs politiques. Les hommes politiques, souvent, les gens les approchent simplement par rapport à ce qu'ils ont. Mais parfois, ils ne les aiment pas.
Mais revenant à ce message, jusque-là, c'est l'Église catholique qui a qui envoient ce message, mais il y a d'autres confessions religieuses qui, jusqu'à présent, n'ont pas encore donné leur position. Donc il y a quand même des confessions religieuses qui sont influentes dans ce pays, mais qui ne se sont pas encore prononcées.
Mais madame, il faut voir, l'Église catholique, c'est depuis l'époque du diable. Il ne faut pas confondre l'Église catholique avec ces églises qui, de temps en temps, sortent un mot, hein, sans qu'ils aient même eu des réunions comme telles. Pour dire quelque chose, l'Église catholique, depuis l'époque coloniale, assume ses responsabilités. Vous savez que même pour l'indépendance de ce pays, l'Église catholique a fait la déclaration. Vous connaissez l'éveil de conscience africaine qui a été faite par Malula en 1955, qui est à la base de du mouvement qui a conduit à l'indépendance de notre pays. L'Église, à tous les moments importants, n'est-ce pas, de l'histoire de notre pays, a pris ses responsabilités. Mais c'est rare de voir, n'est-ce pas, les autres églises agir ainsi. D'autant plus que, comme les autres intervenants l'ont dit, c'est l'Église catholique qui a aligné 30 000 observateurs. Quelle autre organisation dans ce pays l'a fait ?
C'est une religieuse.
Voilà, donc l'Église catholique a montré déjà son intérêt en alignant ces dizaines de milliers d'observateurs, alors que ceux qui parlent ailleurs n'ont pas fait ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accordé d'importance au processus électoral. Donc l'Église s'appuie justement sur les rapports de ces observateurs, parce que ces observateurs, pour les mobiliser, vous savez que ça coûte très cher.
Ça coûte cher.
Et donc, ils ne peuvent pas avoir mobilisé les observateurs, à la fin, ils n'exploitent pas ces rapports, ça serait quelque part aussi un manque de responsabilité de leur part.
Comme chaque mercredi, parole aux auditeurs à deux parties, donc après ce stage d'information que je vous invite à suivre aussi à tous les auditeurs de pouvoir suivre, nous allons revenir sur cette question qui est assez préoccupante parce que le nombre d'auditeurs et des internautes qui sont en train de réagir nous le prouvent. Et nous allons revenir en fait sur ces propositions de transition et qu'il n'y a pas d'alternative parce qu'il n'y a pas d'alternative parce que nous n'avons pas une opposition solide, c'est ce que disent les auditeurs. Poursuivons parole aux auditeurs dans sa seconde partie, le thème du jour, ce message de l'Assemblée plénière extraordinaire de la CENCO aux fidèles catholiques et à l'ensemble du peuple congolais. Et bien dans ce message de la CENCO, on mentionne les acquis du processus électoral, ses défaillances, et la CENCO a fait des recommandations au peuple congolais, aux acteurs politiques, à la CENI, au Parlement, au gouvernement, FRDC, à la PNC et à la Cour suprême de justice, sans oublier aussi la communauté internationale. La CENCO rappelle aussi sa mission au sein de la communauté et condamne des dérives qui ont conduit à des violences. La CENCO estime que le processus a été entaché des graves irrégularités qui remettent en question la crédibilité des résultats publiés. Elle demande aux organisateurs d'avoir le courage et l'honnêteté de tirer les conséquences qui s'imposent en proposant la voie du dialogue. Que pensez-vous de ce message ? Notre invité, c'est le professeur Jean-Pierre Bouba-Salala, il est professeur des sciences politiques à l'université de Kinshasa. Nous allons lire quelques messages qui nous parviennent par notre page Facebook que nous avons à peine ouvert ce matin. Nous avons Guy Diébo de Kinshasa. Les Congolais doivent se mettre autour d'une table pour trouver une solution. J'en appelle au sens de responsabilité de chacun de nos hommes politiques. On ne peut pas diriger par défi que la majorité cesse avec des injures à l'égard du cardinal Motsengo, un homme qui est respectable. Gauthier Kachala, je trouve que la CENCO a totalement raison parce que tout d'abord, elle félicite les efforts du gouvernement, mais aussi la CENI pour ses efforts concernant le déploiement du matériel électoral et concernant le déroulement du processus. Ce dernier a été entaché des graves irrégularités que personne n'ignore. Il y a Moubaké qui nous écrit ceci, d'après moi, la CENCO avec en son sein le cardinal Motsengo devrait apaiser les esprits au lieu de les enflammer. Il y a Mati Bundouki qui se trouve en Afrique du Sud. Je pense que la déclaration de la CENCO sur les élections n'est pas une surprise, d'autant plus que l'on connaît la position de l'Église catholique qui d'ailleurs a contribué à la colonisation. Pour nous Congolais, nous devons plus voir le côté positif de l'organisation de ces élections. Si l'on fait totalement par nos propres fonds, en grande parce que par notre profond, et notre propre commission électorale, c'est ça même le symbole de la liberté. Francie, qui est aussi en Afrique du Sud, moi je propose un dialogue aboutissant à la coalition entre tous les partis politiques, non pour leur propre intérêt, mais pour l'intérêt supérieur de la nation, et nous félicitons les évêques pour leur prise de position. André, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour madame, et bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Nous vous écoutons, André.
Bon, moi je trouve que, je pense que beaucoup des gens l'ont dit tout à l'heure, même les professeurs. Alors, ce que la CELCO a déclaré, c'est fondé. Présentement, on parle plus de la transition, il faudra que, qu'il y ait une table ronde avec tous les opposants et même le gouvernement qui est en place. Mais je pense que tout ça, c'est vrai, ils peuvent se mettre autour d'une même table. Mais moi, je crains qu'on arrive encore, qu'on réponde encore aux histoires et 1+4, c'est pas 1+4, 1+3 ou même 1+2. Donc, c'est vraiment grave. C'est la preuve d'expérience que notre pays est totalement malade. Il n'y a pas la démocratie. Et d'ailleurs, nous devons définir la démocratie. La démocratie signifie tout simplement que le peuple doit exercer le pouvoir à travers ses élus. Mais si les élections étaient mal organisé, il y a eu la tricherie, il y a eu la fraude. Et présentement, moi je trouve que la première chose que nous devons faire, c'est pousser le pasteur Ngoï Mulunda à démissionner. Il doit démissionner avec tous les membres de la CENI. Hein, donc on voit les rapporteurs, les questeurs, tous ces gens-là doivent démissionner. À ce moment-là, nous devons maintenant penser à une table ronde et qui peut-être nommer d'autres personnes pour réorganiser les élections en attendant qu'on ait donc la période des élections.
Merci André pour vous faire la démission, voir donc comment réorganiser et sans retomber dans une transition. Nico, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour madame.
Oui Nico, nous vous écoutons.
Et merci beaucoup madame de nous avoir accordé la parole. Je veux d'abord encourager la CENCO pour le courage exceptionnel
d'avoir à l'heure. S'il vous plaît, Nico, essayez d'éteindre votre poste récepteur, votre radio à côté de vous, le temps que je lise ce message d'Annie Passou qui se trouve en Italie. C'est une déclaration des intellectuels hommes de l'Église. C'est à partir des preuves leur apportées par les observateurs à prendre en considération pour le bien du pays. Le journal potentiel de ce 18 courant vient de publier un article sur la fraude et la tricherie à Idiofa. On demande l'annulation des législatives dans cette circonscription. C'est des marques qui se joint à d'autres confirment la déclaration de la CENCO. Nous sommes d'Idiofa, nos familles nous ont donné des nouvelles sur la manière dont se sont déroulées ces élections. Qu'ils ont Babouki de Mbandaka, je suis contre le point de vue des évêques du Congo parce que ce point de vue va nous amener à la transition de 2 ou 3 ans. Pendant ce temps, la RDC n'aura pas l'argent pour financer les élections, d'où la communauté internationale va les financer. Alors, si la communauté internationale finance les élections, elle va nous imposer un président de leur choix qui va travailler pour leurs intérêts. Voilà ce que pense Kizon qui se trouve à Bandaka. Aziza Sani nous écrit ceci. C'est du déjà entendu, je m'attendais à ce que la CENCO nous donne des vrais résultats comme elle avait 30 000 témoins. Les gens de la Croix qui soient durs en Afrique du Sud, pourquoi toujours l'Église catholique se lance dans les affaires politiques, je me demande si elle est politique ou apolitique. Et Nico, j'espère que cette fois-là, vous êtes avec nous pour que nous puissions, vous serez le dernier auditeur de cette émission, pour que nous puissions redonner la parole à notre invité. Nico, vous êtes avec nous?
Oui, je suis là avec vous.
Oui, allez-y, Nico, en une minute.
Oui, j'allais poser des petites questions à l'invité. La première est que, qu'est-ce que la CENCO prévoit comme solution en cas où la CENI et les autorités politiques ne répondaient pas à leurs préoccupations? Deuxième préoccupation, quels seront les points inscrits à l'ordre du jour du dialogue proposé par la CENCO? Et qui en sera l'organisateur? Bon, voilà des petites préoccupations que j'avais.
Merci Nico de votre participation. Professeur, vous avez suivi cette dernière série d'auditeurs. On a eu des auditeurs qui étaient contre en fait ce message. Et pour certains, ils estiment que c'était un message pour enflammer au lieu d'amener la paix. Il y a aussi un autre qui estime que quelle sera la suite du processus, hein, dialogue avec qui, comment. D'autres auront des craintes pour retomber dans une transition, votre réaction?
Bon, c'est vrai, vous savez, il n'y a personne qui a une solution miracle hein, à la crise. Ce sont des problèmes que nous sommes en train de vivre. Et les évêques essayent simplement de faire des propositions pour dénouer la crise, je crois. Donc, même dans tout ce qu'ils proposent, comme nous l'avons dit, eux, ils font leur travail d'interpeller les acteurs politiques, d'interpeller les citoyens, d'interpeller les différents animateurs des institutions pour qu'ils puissent écouter ce que pense le petit peuple. On peut dire qu'ils sont comme porte-parole dans un contexte où on ne voit pas des gens se mobiliser pour faire des propositions crédibles et responsables. Il faut voir dans la ville combien de gens se mobilisent pour essayer de faire des propositions crédibles. C'est bien de jeter les balles sur les pierres sur la Cinco, qui au moins a le mérite de s'être mobilisé pour déplacer une cinquantaine d'évêques de tous les Congos, les réunir pendant 4 jours pour discuter, réfléchir sur le processus démocratique et surtout le processus électoral. Et donc, si différentes associations, si différentes églises pouvaient aussi le faire, je crois qu'on aurait plusieurs sons de cloche, on aurait plusieurs échos, et peut-être à ce moment-là, les acteurs politiques allaient être encore beaucoup mieux éclairés. Or, malheureusement, il se fait que dans notre pays, c'est un peu ça la situation, il y a beaucoup de gens qui aiment critiquer, mais sans proposer, sans faire de propositions. Ici, les évêques se sont mobilisés, comme ils l'ont fait déjà en déployant 30 000 observateurs. Maintenant, ayant mobilisé tous ces gens, ayant dépensé de l'argent, il fallait quand même tirer les conséquences des rapports qu'ils ont reçus.
Et la crainte des auditeurs, une nouvelle transition en RDC?
Bon, on ne sait pas, je ne pense pas qu'il nous faut encore des transitions. C'est pour cette raison-là que tous les Congolais devraient être conscients, n'est-ce pas, du fait que notre pays est un pays post-conflit et que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons devrait être mesuré par rapport à cela. Vous savez que parfois même les responsables politiques aussi ont ces lourds fardeaux, n'est-ce pas, de gérer ce pays avec tous les problèmes que ce pays a. Et donc, ce n'est pas toujours facile. Et donc, dans ce sens-là, la déclaration des évêques est en quelque sorte leur apport au dénouement de cette crise.
Et les acteurs, comme on l'a dit, voilà, aujourd'hui, ont le libre arbitre, donc ils peuvent choisir d'écouter ou pas du tout.
Ou de ne pas écouter, donc il ne faut pas dire que les évêques font de la politique. Les évêques sont des Congolais. Lorsqu'il y a crise, à tout moment, depuis que notre pays est indépendant, même pas avant, les évêques ont toujours, à chaque moment de crise, levé la voix pour rappeler à l'ordre, inviter les gens à veiller aux valeurs. Une société ne peut pas aller à la dérive, c'est comme ils disent, quel témoignage nous allons donner à notre jeunesse si nous allons toujours développer les antivaleurs dans une société. Donc, il est important que le peuple se sente aussi porté par ses pasteurs. Et donc, c'est dans ce sens que les évêques ont parlé. Maintenant, ça peut froisser quelqu'un, ça peut choquer, mais je crois qu'il faut regarder ce qui est bien là-dedans, les efforts de faire une proposition. Et donc, nous prenons ça comme leur contribution. Maintenant, aux acteurs politiques, de nouveau, d'assumer leurs responsabilités, non pas aux évêques. Qu'il faut demander d'assumer. Les évêques ont fait leur travail. Maintenant, c'est aux responsables de ces pays d'assumer leurs responsabilités.
En tout cas, merci beaucoup, professeur, de votre participation au cours de cette émission. Nous disons également merci à tous les auditeurs, ceux qui sont intervenus et ceux qui nous ont suivis, que ce soit en FM, connectés sur www.radiocatholique.net, et aussi ceux qui étaient sur Facebook, parce que c'est une nouvelle page que nous avons ouverte aujourd'hui. Nous allons nous retrouver demain pour un nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Il y a une année, la mutuelle de santé de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a été lancée. Une mutuelle pour faciliter l'accès aux soins de santé aux enseignants et leurs dépendants. Quelle est la situation dans votre milieu? Vous pouvez réagir dès à présent en nous écrivant à l'adresse internet pa@radiocatholique.net ou sur la page Facebook PA, Parole aux auditeurs plutôt. Et je dis merci à Christine Poutou, à Pierrot Lamézi, à Oulem Lunga, sans oublier Nicole Dakar qui a supervisé cette émission. À demain.